Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'Équipée Sauvage, l'émission qui est au journalisme ce que le Festival d'Angoulême est à la BD, c'est-à-dire à la fois une fête, mais aussi une compétition. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes de la rédaction s'affrontent au service de votre savoir, histoire, science, musique, géopolitique, macramé, notre éclectisme est total. Un seul repartira coiffé de la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour qui vaut bien l'épée d'académicien des Beaux-Arts. N'en déplaise à une de nos invitées aujourd'hui que je m'apprête à vous dévoiler. Le temps de saluer ma consœur, ma complice, ma fée. Avec son petit air espiègle, on l'imagine très bien en Samantha de Ma Sorcière Bien-Aimée.
Alors, je sais qu'il y a eu un remake X.
Oui, bon, bonjour Emma Rock.
Merci. Je pensais que vous alliez être aimable aujourd'hui. Bonjour ça, Mathieu, bonjour à tous.
Ça serait une première. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé ou sur les écrans. Mais d'abord, accueillons donc nos invités d'honneur. Ils sont tous les deux parrains de l'année de la bande dessinée en France qui vient de démarrer. Mais on a quand même deux profils assez différents, surtout pour moi. En effet, à ma droite, c'est la première fois de ma vie que je la rencontre. Je suis extrêmement intimidé, sachant qu'elle vient d'être élue à l'Académie des Beaux-Arts, l'équivalent de l'Académie française pour les peintres. Une première pour une dessinatrice de bande dessinée. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour.
C'est très émouvant.
Surtout sur cette musique.
Oui, à vos côtés, lui, j'avoue, je le connais un chouïa mieux, vu que je l'ai reçu un paquet de fois et que c'est mon voisin dans la vie. Bonjour Jules, ou plutôt salut mec.
Salut chef.
Décidément, t'es dans tous les bons coups, toi. Macron part en Chine, hop, tu montes dans l'avion. Catherine Meurice entre aux Beaux-Arts, hop, tu t'arranges pour être parrain de l'année de la BD avec elle. Hey, c'est gagnant-gagnant pour toi.
C'est ça, c'est l'amour courtois.
Plus sérieusement, Jules, on le rappelle pour ceux qui n'ont pas la chance d'être votre voisin comme moi, vous n'êtes pas le rappeur talentueux. Il y a eu des confusions, pour tout vous dire, la dernière fois, j'ai un auteur qui travaille avec moi sur cette émission qui m'a fait toute la fiche sur Jules, le rappeur, le jour où je n'avais pas compris que c'était vous. Jules, l'auteur de bande dessinée Silex and the City, 50 nuances de grec, entre autres. Et puis maintenant, Call of Duty, génération Greta, encore un bon jeu de mots. Vous êtes donc tous les deux les parrains de cette année de la BD qui vient de démarrer. Ça consiste en quoi déjà votre job de parrain?
Qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit club bien fermé. Non, on est là pour accompagner, représenter dans les écoles, dans les musées, il va y avoir beaucoup de choses.
Oui, parce qu'ils ont proclamé que ce serait l'année de la BD 2020, et donc on a un peu un rôle de Miss France, d'inaugurer des choses comme ça.
Vous êtes les Miss France de la BD.
Voilà. Ouais, ouais. Et en même temps, on s'est dit que on s'est un petit peu téléphoné avant d'accepter, je pense, savoir est-ce que ça allait être comme
payé,
les animations de supermarché.
Non,
c'est pas payé.
Mais
en revanche, voilà, c'est pas qu'une opération commerciale, semble-t-il. Il y a plein de choses un peu intéressantes. Et du coup, de jouer le rôle de porte-parole et de porte-voix, parce qu'en fait, il y a plein de choses à raconter hein, sur la BD aujourd'hui. On peut faire un petit... Voilà, une petite équipe.
On va en parler, évidemment, durant ces deux heures, de la BD, aussi de la situation pas toujours rose des auteurs de bande dessinée. Mais d'abord, je vous présente les forces en présence cet après-midi. À ma gauche, quand on pense, mon cher Jules, ma chère Catherine Meurice, que vous êtes parmi les plus célèbres auteurs de BD français, que vous serez au Festival d'Angoulême en tant que star, et que vous réussissez pourtant à rester si humble, alors que lui, il va simplement au Festival de l'Alpe d'Huez avec une malheureuse accréditation en Europe 1 en tant que simple journaliste, et il arrive pourtant à se la péter. Voilà ce qu'il répondait la semaine dernière, faussement blasé, limite les pieds sur la table à quiconque n'était pas convié au Festival de la Comédie.
Tu vas pas à l'Alpe, toi?
Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour
à tous. Et la semaine prochaine, je vais où?
À Angoulême.
Vous êtes vraiment dans tous les bons coups, vous aussi. Et alors, aujourd'hui, comme vous êtes à la fois le monsieur cinéma et le monsieur bande dessinée d'Europe 1, vous êtes lancé un petit défi.
Oui, on va essayer de résumer, ou en tout cas de faire un petit précis de l'histoire de la bande dessinée. Dans l'histoire, c'est-à-dire comment elle est née, etc. Et surtout, où ça en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui marche? Parce que la bande dessinée cartonne, vous savez, les auteurs en profitent peu, mais ça se vend bien.
À ses côtés, sa culture bande dessinée est stupéfiante. On peut parler d'aficionado.
Je me souviens, quand j'étais petit, je regardais Ulysse 31.
Oui, non, bon, il connaît rien. En revanche, pour rebooter Windows en mode sans échec, il n'a pas son pareil. Je vous présente notre star de l'informatique et des nouvelles technologies. Bonjour, Anissé Mbida.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Jalousé de tous pour sa musculature ciselée, le discobol d'ébène, comme on le surnomme, est encore plus agaçant au mois de janvier quand on se débat tous avec un début de bouée au niveau de la taille, alors que lui, allez-y pour voir Eva tâter.
Ah ouais,
c'est écœurant. Anissé, cessez de nous narguer avec ce corps parfait. Expliquez-nous plutôt avec quel sujet vous comptez l'emporter aujourd'hui.
Oui, moi je vais vous parler d'un secteur où la France est championne du monde aux toutes catégories d'innovation, c'est celui de la peinture. En France, on a inventé des peintures climatisantes, dépolluantes, anti-odeurs. Je vais vous raconter tout ça.
Des champions de la peinture.
Champions du monde.
Climatisantes. Alors je ne sais pas ce que vous avez fumé, Anissé, mais vous allez nous expliquer. Le programme est donné, l'équipée sauvage peut démarrer.
L'équipe est sauvage.
2020 sera donc l'année de la BD en France. Quand le ministère de la Culture l'aura dit, ça démarre dans 3 mois, vous en serez les parrains. Catherine Meurice et Jules ont été un peu pris de court.
Avec combien de temps de retard ?
C'est quoi le but de cette année de la BD ? Ça cartonne déjà tout seul la BD, non ? Il y a besoin de la promouvoir encore la BD en France ?
À mon avis, c'est un genre de célébration. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que la BD a accédé à tous les degrés de la notabilité. Je pense que l'apogée, c'est l'entrée de Catherine Meurice sous la coupole.
Mais oui, ça, c'est
tout le monde a des médailles à en revendre, des breloques. On pourrait les fondre pour faire des canons. Hein. Voilà, et chacun, la bande dessinée marche très très bien, les albums se vendent par centaines de milliers, et en même temps, c'est un monde un peu disparate, qui a quelques petits problèmes. Donc l'année de la BD, ça permet de mettre en lumière toute cette histoire-là.
Quand je regarde vos dernières créations respectives, Delacroix pour vous, Catherine Meurice, et Call of Duty pour vous, mon cher Jules, je me dis que la BD peut être formidable, mais elle peut être aussi très différente. L'art graphique d'un côté, la BD plus de l'autre, je ne sais pas comment dire, mais on voit que ça réunit des
gens différents. Ce qui est étrange, c'est qu'on vient du même terreau avec Catherine, c'est-à-dire qu'on vient du dessin de presse, de la critique politique, d'un ton un peu grinçant, et puis effectivement, on a nos singularités. Moi, je suis quelqu'un qui fait des gags, des blagues, même si... Voilà, j'ai un travail patrimonial sur la philo avec la planète des sages ou sur la mythologie avec 50 nuances de l'âge. Catherine Meurice, c'est un peu la janséniste de la BD, comme ça, la porte étroite du salut.
Ah, c'est pas vrai.
Mais cela dit, c'est elle qui est sous la coupole et pas vous.
Et il y a beaucoup d'humour dans Delacroix, il faut le préciser.
Évidemment, on le précise aussi. Le 9e art est en fait, 2020 sort à l'année de la BD. Catherine Meurice et Jules répandent la bonne parole tout l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, beau parleur à la pilosité amazonienne, Mathieu Charrier va nous offrir en 3 minutes un récapitulatif exhaustif de toute l'histoire du 9e art. Un défi qu'il a les capacités, je crois, pour relever, lui qui n'est pas du tout du genre à blablater pendant des plombes, pas du tout le style non plus à tenir la jambe d'une invitée, en l'occurrence Sandrine Bonner, pour essayer de l'épater avec sa culture ciné. Pour vous dire, avec Bonner, ça traînait tellement en longueur qu'il a fallu qu'un confrère intervienne.
Mais déjà, dans American Beauty, il faisait des longs plans séquences. La scène du dîner avec les parents et tout. Déjà, à l'époque, il avait fait des longs plans séquences.
Faut que tu fermes ta gueule.
Préparez-vous pour Mathieu Charrier.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Ivresse du rire et bonheur d'apprendre, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour booster votre culture G au contact des plus belles plumes de la rédaction d'Europe 1. Des journalistes qui s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour. Vous votez via Twitter pour votre sujet préféré, sachant qu'ici, la voix de l'invité compte triple, comme s'en est amèrement souvenue Anne Le Gall hier, trop tard, alors qu'elle était en pleine débâcle avec son sujet sur une opération loufoque qui consistait à planter des slips pour sauver la planète. On n'a pas bien compris. Ça aurait pu passer face à un Bigard ou un Patrick Sébastien. Pas de bol pour elle. L'invité hier, c'était Élise Lucet d'Envoyé Spécial.
Au moment des semis, des laitues, des radis, on va pouvoir planter nos slips.
Aujourd'hui, nos concurrents ont fait le serment d'essayer de renouer avec une forme de dignité journalistique. Mathieu Charrier, c'est à vous que revient l'honneur d'ouvrir le bal ce soir face à Jules et Catherine Meurice, demi-dieux, on peut le dire, de la bande dessinée française. Vous avez choisi un sujet courageux ou con. Les 3 minutes qui suivent nous le diront.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que la bande dessinée, vous savez, elle est née au 19e siècle, donc bien avant le cinéma. On parle aujourd'hui de 9e art pour la bande dessinée, mais c'est né même avant le 7e art. À l'époque, en Europe, c'était évidemment dans les journaux satiriques, donc ça se présentait sous forme de bande dessinée réellement, c'est-à-dire que c'était des petits dessins qui succédaient sur une bande. On était encore loin de l'époque de la bulle, vous savez, les textes, ils étaient écrits en dessous de l'image,
ah oui,
vous
n'aviez
pas,
ça,
les personnages ne parlaient pas dans les bulles. À la fin du 19e siècle, aux États-Unis, il y a les grands journaux américains qui commencent à en faire un média de masse, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une concurrence acharnée entre tous les journaux, et ils se disent une manière d'attirer un nouveau lectorat, ça va être de mettre ces dessins dessinés, on va dire, ces bandes dessinées. Et Joseph Pulitzer, rien que ça, le premier a publié dans son journal, le New York World, fin du 19e siècle, la première bande dessinée américaine en couleur. C'est-à-dire la première bande en couleur, c'est Pulitzer. Ça vous montre un petit peu d'où on part. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, il y a les comics. J'essaie de le faire rapidement, mais il y a les comics américains qui commencent à vendre, vous savez, quelques centimes aux jeunes, et notamment aux jeunes soldats qui vont partir avec leurs comics. Ah. En Europe, début aussi des hebdomadaires. Vous pensez notamment au Petit 20e en Belgique, le Petit 20e.
Tintin au pays des soviets.
Oui, alors là, vous lisez la feuille, mais vous saviez quand même que Tintin était né dans le petit 20e.
Pas du tout, je ne savais pas,
1909,
c'est une quiche, et je l'avoue.
Les hebdomadaires qui vont continuer sur des décennies, jusqu'à Pilote qui va aller jusqu'en 89, il y a Moebius avec toute là aussi l'émergence d'une bande dessinée plus indépendante et plus underground en France. Et puis, évidemment, au Japon, milieu du 20e siècle, c'est l'émergence des fameux mangas qui aujourd'hui portent le secteur. Donc voilà, vous avez une bande dessinée comme ça qui, tout au long du 20e siècle, va se généraliser à travers le monde et dans différentes cultures.
Mais alors, question, aujourd'hui, Mathieu, qui lit de la BD en France ?
Tout le monde, ou presque. Il y a 8 millions de Français déjà qui achètent de la BD régulièrement, c'est-à-dire plusieurs albums par an. C'est énormissime, c'est quasiment le même nombre de Français qui achètent des romans. ans. Donc on est sur un média de masse. Parce que vous savez, la BD, on a tendance à penser que c'est toujours des jeunes boutonneux qui lisent ça dans leur chambre avec des chaussettes sales. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on est dans un média qui aujourd'hui touche tout le monde. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'en bande dessinée, vous avez la majorité des lecteurs qui sont des lectrices. C'est-à-dire une courte majorité.
C'est déjà le cas pour les romans, non ?
Oui, c'est déjà le cas pour les romans, mais je reviens à l'image qu'on peut se faire du jeune gamin qui lit Astérix aux toilettes. On est très largement sorti de ça aujourd'hui. En France, vous avez plus de 5000 nouveautés bande dessinée qui sortent, je vais y arriver, chaque année. Ça a été multiplié par 10 en une grosse vingtaine d'années. Donc vous avez une offre qui s'est démultipliée. Et puis, qui lit de la bande dessinée, majoritairement des CSP+, également. Donc là aussi, ça tord un petit peu une idée reçue. C'est aujourd'hui, la bande dessinée est un média de masse. C'est un secteur qui va bien, plus 13% de chiffre d'affaires en 2017. Donc voilà, on lit beaucoup de bande dessinée, notamment en France.
Mathieu, je vous sens très optimiste sur la bande dessinée, mais il y a des auteurs de bande dessinée qui apparemment galèrent.
Il y a la majorité des auteurs de bande dessinée qui galèrent. Il y a plus d'un auteur sur deux qui vit même pas du SMIC aujourd'hui en France.
C'est ça le problème. Mais
c'est la stratégie aussi des éditeurs, c'est-à-dire qu'ils sortent beaucoup de titres, je disais plus de 5000 titres, pour se dire plus il y aura d'offres, plus les gens vont en acheter, ce qui est vrai. Mais évidemment, plus il y a d'offres, moins les gens achètent, chaque titre se vend de moins en moins. Alors c'est vrai que vous avez des auteurs qui parfois peuvent travailler 2-3 ans sur une bande dessinée pour gagner 10 000 euros.
Mais vous, Jules et Catherine Meurice, vous êtes un peu coincés parce que vous êtes des gros vendeurs. Vous êtes des stars de la BD et vous devez promouvoir la BD. Ça veut dire aider les auteurs qui ne sont pas connus et qui galèrent. Quelle est la solution pour ça, Catherine Meurice ?
Moi, déjà, je ne suis pas du tout gênée d'en parler parce que je me souviens qu'il y a très peu de temps, je faisais partie de ces auteurs qui ne vendaient pas, bien sûr. Et on est très nombreux parmi les auteurs et autrices à avoir un autre boulot à côté. Moi, j'ai fait ça longtemps. Je vous parlais tout à l'heure de nos débuts dans le dessin de presse. On a été plusieurs années à Charlie Hebdo. On était salariés à Charlie, ce qui est très rare. On est rarement salariés quand on est dessinateur. C'est le cas au Canard et à Charlie. On n'est plus du tout au journal aujourd'hui. Et donc moi, pendant longtemps, j'ai fait des bandes dessinées qui ne se vendaient absolument pas. Mes Hommes de Lettres, Le Pont des Arts, même Moderne Olympia, et je pouvais me le permettre parce que j'avais de quoi bouffer à côté en bossant dans le dessin de presse.
Et il faut faire quoi ? Il faut changer le mode de rémunération des auteurs ?
C'est compliqué. C'est vrai qu'on pourrait demander aux éditeurs de changer les pourcentages, d'exiger on va pas entrer dans les détails, je pense que c'est sans doute compliqué, mais il y a pas mal de choses à changer. Vous parliez du nombre d'auteurs, de la profusion des albums. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup trop d'albums, dans le sens où l'éditeur ne peut plus suivre les auteurs, ne peut plus défendre chaque auteur, le libraire ne peut pas lire les albums, donc ne peut pas les défendre.
Ça fait 16 albums par jour, tous les jours de l'année.
Mais c'est complètement impossible. Donc les auteurs, il y en a qui ne sont pas lus des libraires, donc pas défendus, etc., qui restent sur la touche et qui ne vivent pas. Enfin, c'est dramatique, vraiment. Ouais.
Lisez 16 BD par jour pour soutenir les auteurs. C'est notre message aujourd'hui. On remercie Mathieu Charrier, votre chronique aura-t-elle elle fait mouche, nos invités se concertent. Ils vous font savoir la décision peu avant 18h. Jules, qu'est-ce que vous conseillez à Catherine à voix basse ?
Bon, t'es pour lui, c'est un con.
Europe 1.
À suivre, mon cher Jules, si je vous disais qu'en France, on était les champions du monde des peintures innovantes.
Vous voulez que ça me foute, je suis pas peintre.
Oui, non, mais intéresse-toi quand même au sujet de mes journalismes. Bon. Inodores, dépolluantes, désinfectantes et même, on le disait, climatisantes. Nos peintures le confirment, impossible n'est pas français. À l'occasion des Trophées de l'Avenir, cérémonie Europe 1 récompensant les trouvailles les plus innovantes, Anissé Mbida nous dévoile ses peintures qui vont révolutionner votre quotidien dès demain. Ça sera juste après Maroon 5, Girl Like You sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures d'infos rieuses, parfois un peu bruyantes, mais voici le moment que redoutent nos invités. Ce moment où, comme numéro bis dans Astérix Mission Cléopâtre, ils se disent
« C'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. » Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme.
Eh oui, c'est l'heure de l'interview. Catherine Meurice et Jules, vous êtes tous les deux d'illustres auteurs et autrices de bande dessinée. Tous les deux, vous serez présents au Festival d'Angoulême qui démarre la semaine prochaine. Catherine, vous êtes même en lice pour le Grand Prix et vous parrainez donc tous les deux l'année de la bande dessinée en France. On parlait des solutions à apporter, notamment aux auteurs de bande dessinée, pour réussir à vivre de leur art. Il paraît qu'il y a un rapport, le rapport Racine, qui a été commandé. Mais ça serait un peu l'Arlésienne. Personne n'a encore vraiment vu ce rapport, même vous.
On ne sait pas où il a planqué, le ministre de la Culture.
Oui, ça, je crois que ça fait des années qu'il a été commandé.
Ah, carrément.
Ça fait des mois qu'il a été écrit. Ça fait des semaines qu'il a été rendu. Et en même temps, il n'existe toujours pas.
Il a été bouffé.
Ce qui est quand même génial, c'est qu'il a été présenté en novembre. Et puis que là, on va le présenter début février, c'est-à-dire le lendemain de la fin du festival, des fois que là-bas, ça agitera un petit peu tout le monde.
Ouais, Jules, vous dites, le rapport Racine, c'est un peu le marsupilami en Palombie. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu.
Oui, c'est ça. Bon, moi, j'aime bien la Chine, en fait. Au départ, je travaille aussi pas mal sur la Chine. Et on sait bien que dans la peinture chinoise, le vide a autant d'importance que le plein. En fait, il a compris quelque chose.
Lui aussi, il veut rentrer sous la coupole, j'ai l'impression. il essaie.
Non, la coupole, la brasserie, déjà. Oui,
ça déjà un premier pas pour vous, Jules.
Mais c'est là que je suis. Hein. C'est méprise, mais en fait, je suis...
En salle à la coupole.
Oui, en salle à la coupole.
Il y a un malentendu depuis.
Non, mais je crois que les auteurs et les autrices savent ce que contient le rapport Racine, parce qu'on connaît notre situation. Et on se demande pourquoi le rapport ne sort pas. Est-ce qu'il fait peur aux éditeurs?
Il a un nom à être enterré, de toute façon.
Ils sont réunis, en tout cas, pour fêter l'année de la bande dessinée. De sacrés déconneurs, Catherine Meurice et Jules sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
Si Gad Elmaleh l'avait connu il y a 10 ans, il n'aurait pas intitulé son sketch Le Blond, mais Le Black. Car Anis Mbida, notre expert innovation, a ça en commun avec le personnage du Blond, qu'il est insupportable de perfection. Beau, compétent, en phase avec son époque, il est en outre disponible...
In 44 languages, including French.
Il est notre deuxième prétendant au titre de chroniqueur du jour. Mathieu Charrier, votre sentiment là tout de suite en regardant Anis?
Les boules.
Oui, te mis pas vieux, donnez tout cela.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures desquelles l'invité ressort comme vous, grisé et hilar. Notre secret, on ne le dévoilera pas.
On met un truc dans le café exprès.
Non, on ne dévoilera pas notre secret, Alice. Au fait, Catherine Meurice, Jules, vous voulez un petit café? Vous avez déjà été servi? Ensemble, les amis, on fête l'année de la BD dont vous êtes les parrains, mais vous connaissez mon côté midinette. Je veux tout savoir, Catherine Meurice, comment on est élu à l'Académie des Beaux-Arts? Déjà, est-ce qu'on postule comme à l'Académie française? Comment ça se passe?
On postule. Non, on postule, oui. On postule, c'est-à-dire qu'on m'a invité à me présenter.
On vous invite à vous présenter.
Oui. C'est difficile de refuser. Je trouvais ça très, très rigolo. Et puis je me disais, oui, bah, faisons, c'est marrant, j'y arriverai jamais, mais allons-y. Et en fait, voilà, ils ont voté pour moi.
Vous n'étiez pas préparé à ça.
Non, c'est vrai que c'est pas la première fois que je me lance dans des trucs comme ça. Je me suis lancée dans la BD sans savoir que ça pourrait un jour marcher, par exemple. Bon. Alors voilà, j'ai des surprises parfois au cours de la vie.
Il y a l'épée, il y a le bicorne.
Alors pas tout de suite. L'installation sous la coupole, ça peut être dans un an ou un peu plus. Où en effet, il y a l'habit vert, il y a l'épée, il y a un discours. Il faut que je fasse l'éloge de mon prédécesseur, etc. Non, j'ai rencontré des académiciens formidables. Le secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Girard, qui est hyper ouvert, qui a envie depuis longtemps que la bande dessinée rentre à l'Académie. Il y a des architectes dans l'Académie des Beaux-Arts, hein, des architectes, des compositeurs, des graveurs, des peintres. C'est génial. J'ai rencontré des gens qui ont très envie de s'ouvrir. Et donc, je ne suis sans doute pas la dernière autrice de BD à rentrer.
Vous allez militer pour la BD, maintenant que vous avez mis le pied dans la porte. Là, à l'intérieur, vous allez...
Avant de militer, défendre ce secteur, défendre les auteurs et les autrices, parce que c'est encore un endroit où on peut... Enfin, c'est un endroit où on peut parler de la création. Il y a des réunions chaque semaine à l'Institut. Il y a des bourses, il y a des aides pour des résidences, etc. Il y a vraiment tout un travail fait qui voilà...
Elle va avoir accès au robinet, là, à vie à tous les auteurs. C'est Catherine qui distribue maintenant.
Voilà, je tiens à préciser que c'est un boulot bénévole.
Ah oui, c'est bien de le préciser. Parce qu'on fantasme beaucoup.
Exactement, non, on n'est pas payé.
Alors, Catherine, être admis à l'Académie des Beaux-Arts, c'est une chose, mais intégrer l'Académie des Beaux-Abdos, c'est encore plus dur. Je ne vous présente pas Anis Mbida, dont le corps sculpté à la serpe se présente de lui-même avec cette insolence qu'ont les corps toniques. Franchement, Mathieu Charrier, quand vous vous comparez avec Anis, qu'est-ce que vous vous dites?
Mon dessert préféré, c'est le gâteau basque.
Voilà, tout est dit. Et en plus, il s'y connaît le bougre en nouvelles technologies, des nouvelles technologies qui s'invite même désormais jusque dans la peinture. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anissé?
Oui, on ne va pas parler de peinture Beaux-Arts, on va parler de peinture bâtiment, là plutôt. Il faut savoir que dès que la peinture fait autre chose que recouvrir les murs, eh bien, il se trouve que les Français sont champions du monde de l'innovation en matière de peinture. Saviez-vous qu'il existe des peintures climatisantes?
Climatisantes,
ça paraît un peu contre-productif. En principe, une peinture, c'est censé s'échauffer au fur et à mesure qu'il y a du soleil dessus. Mais là, c'est une peinture qui stocke la chaleur le jour, quand il fait un peu plus chaud le jour, et qui la restitue progressivement le soir quand il fait un peu plus froid. Et donc, ça permet d'équilibrer les écarts de température. Ça a été inventé en France, évidemment, à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. d'Armor. Et c'est une peinture qui en ce moment est exportée au Japon où il y a des énormes écarts de température. Et quand on peint une de ces maisons avec cette peinture et qu'on en prend une autre témoin qui n'est pas peinte, on a des écarts de 4 degrés. Donc ça évite de mettre
énorme.
Du,
c'est pas,
du chauffage.
C'est pas une petite blague. Quoi.
C'est très très sérieux et c'est très intéressant. Il y a aussi la première peinture anti-odeur qui a été inventée en France. Alors vous avez une pièce et en une heure, vous enlevez toutes les odeurs de frites, de moisies, les odeurs de friture, de cigarettes. C'est la peinture qui va se bouffer, absorber et détruire 60% des odeurs directement.
Non, c'est pas ça. C'est que chaque fois que vous avez fait des frites, vous devez peindre votre
non,
pièce.
Non, non.
C'est idiot.
Non, c'est la peinture
elle,
qui...
Elle va pas rentrer à l'académie.
Je crois qu'il existe aussi une peinture à conversation con qui absorbe toutes les conneries qu'on peut dire et qui les restitue petit à petit en fait, pendant 4 heures.
Non, mais Eva a raison. Je vais prendre sa défense quand même. Ça marche. Comme il y a un principe actif dans la peinture et ça marche pendant 3 ans. Voilà. On peint la pièce une fois, en une heure, ça bouffe les
ça fait 7 ans que je travaille avec vous et vous réussissez encore à me surprendre au quotidien.
Alors, une autre première, la première peinture antibactérienne. Et là, c'est très intéressant parce qu'on peut peindre, par exemple, les poteaux dans les métros, les cuvettes des toilettes, etc.
C'est vrai que c'est très intéressant.
C'est désinfectant. Ça enlève tous les germes, ça tue tous les microbes automatiquement. Encore une fois, c'est inventé près de Montpellier. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Il y a la peinture qui change de couleur en fonction de la température. Alors, on nous dit à quoi ça sert. Vous avez une bouilloire, par exemple, oui. Elle est grise. Et quand elle est trop chaude, elle va passer rouge. Des peintures qui réagissent à la pression. Alors ça, c'est au tennis, par exemple. Plutôt que, vous savez, quand on a des terrains synthétiques, plutôt que d'aller chercher un radar, etc., bien là, pof, ça va laisser une marque pendant quelques secondes. Il y a plein. Il y a plusieurs de ces entreprises-là, justement, qui présentent ces peintures innovantes, qui seront en compétition dans les trophées de l'avenir européens. C'est tous les midis. Vous savez, la France bouge.
Tout
qui
à
parle
fait.
De ces innovations avec Elisabeth Assayag et Raphaël Duchemin. Et les lauréats sont connus le 27, lundi 27, et les lauréats seront invités à l'émission de mardi à midi.
Et juste une question avant celle de Mathieu Charrier, qui doit être très intéressante aussi. Mais pourquoi la France est leader dans ce secteur-là?
Parce qu'en France, il y a des très bons chimistes, des excellents chimistes, et la France est une des championnes du monde de la recherche. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, quand une entreprise high-tech vient faire sa recherche et développement, elle vient en France. Cisco, Microsoft, Facebook, etc. Toutes ces entreprises, quand elles veulent faire de la recherche sur l'intelligence artificielle, par exemple, elles viennent en France. On a des très bons chercheurs, des excellents ingénieurs. Mais je ne sais pas pourquoi on a cette idée que tout se passe du côté de la Silicon Valley ou du côté de l'Asie. C'est pas vrai, il se passe des choses en France.
Cocorico, et merci Anissé Mbida. Mathieu, comment vous avez trouvé Anissé?
Pas mal foutu.
Ouais, moi aussi, merci. Europe 1. Dans un instant, les amis, zoom sur un phénomène inouï qui intrigue la communauté scientifique. Phénomène plus rare encore qu'une éclipse solaire totale, un tweet intelligent de Donald Trump ou un bon film avec Franck Dubosc. En 2 jours, Eva Rock a enchaîné 2 victoires dans le quiz qu'il oppose traditionnellement à l'invité. C'est bien simple, le matin devant sa glace, elle ne se reconnaît plus.
Eva, c'est toi?
À moins que ce soit le Ricard, peut-être le Ricard plutôt. En tout cas, le quiz arrive.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Quand la rigueur du journalisme s'encanaille avec la gaieté du divertissement, 9 mois plus tard, le bébé s'appelle l'équipé sauvage. Comme d'ailleurs une vache née lundi en écoutant notre émission. On embrasse Seb, l'éleveur qui lui a donné ce joli nom hein, sur Twitter. Eva, on a
oui.
été contacté.
Oui, voilà, notez... Il l'a appelé équipé,
sa vache. Notez qu'on l'a échappé belle, il aurait pu l'appeler Eva.
Bande de gros cons.
On passe une merveilleuse après-midi.
Vous voulez vraiment l'histoire?
Oui.
Parce que normalement, les vaches qui naissent cette année devraient avoir un prénom qui commence par R. Et je lui ai dit, je refuse qu'elle s'appelle Rock. Et donc, il a dit, je veux bien faire une exception
à la
règle.
Pas cette version-là.
Et on laisse tomber le R. Et donc, j'ai dit, non,
pourtant,
c'est soit
Rock,
équipé.
Ça sonnait mieux qu'équipé voilà. pour un nom de vache.
On est vraiment dans une émission de fond. Hein.
On est dans une émission de fond et on va encore le prouver. On passe une belle après-midi avec 2 figures de la BD française. Jules, auteur de Silex and the City, 50 nuances de grec, ou encore dernièrement, Call of Duty, et Catherine Meurice, première auteure de BD à intégrer l'Académie des Beaux-Arts. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux?
Alors Jules, je crois, a quelque chose à dire.
Jules a une théorie. J'aimerais bien que Catherine dise sa version avant, parce que, je puisse l'infirmer.
Dites-nous, c'est plus agréable quand on est démenti.
Non mais Jules, t'as raison. Non, c'est bien. T'as plus de mémoire que moi.
Il y a eu un débat pendant des années. Il y a plusieurs personnes qui essaient de revendiquer la découverte de Catherine Meurice. Et moi, évidemment, je prétendais à ce titre. Et Catherine Meurice, qui était une brillante élève de l'école Estienne, a participé à un atelier que j'ai donné. Il y avait la semaine de la presse avec le trophée Presse Citron qui récompense du dessin de presse. Et moi, j'avais fait un atelier dans sa classe. Et donc, à l'aveugle, un petit peu, j'avais donné des thèmes. Et puis, les élèves faisaient des dessins. On les a tous mis ensemble. Et puis, les dessins qui surnageaient complètement au-dessus du lot... C'était ce que Catherine Meurice avait fait, d'ailleurs des dessins prophétiques, puisque c'était des dessins sur le réchauffement climatique, historique, les ours blancs et les pingouins au pôle Nord.
C'était la Greta Thunberg déjà avant l'heure.
Exactement, elle était déjà apocalyptique et c'était il y a très longtemps. Entre-temps, le monde s'est écroulé, Catherine Meurice est restée.
Donc Catherine, on valide cette version,
oui,
on peut dire que
non,
c'est
non,
Jules.
Non, il a raison.
Sur c'est Wikipédia, vrai que... on pourrait écrire, ouais. C'est Jules qui a découvert Catherine Meurice.
Oui, exactement. Ouais.
Non, c'est bien.
Pour la vie au contributeur Wikipédia, je vérifie dans une heure.
Ce qui est sûr, c'est qu'après, vous avez reçu le prix Presse Citron, et dans le jury, il y avait aussi Tignos,
il y avait Honoré, principalement, c'est ça. Et les garçons de Charlie m'ont dit, mais passe à la rédaction, viens nous voir. Viens montrer tes dessins et pas tes seins.
Tout ça, c'était
Volinsky.
Avant les hashtags.
Oui, c'était une autre époque.
Exactement, c'est une autre époque. Et je suis venue avec mes petits dessins sous le bras et puis j'ai été immédiatement publiée. Et Jules était là, je m'en souviens, une fois de plus, il était là.
Toujours bien placé.
Ouais, ça s'est passé comme ça. Mais c'était génial, c'est formidable.
Alors attention, c'est une épreuve que nos invités redoutent autant que l'épreuve du sous-marinier dans Fort Boyard. Voici Catherine et Jules, le quiz contre Eva Rock. Alors comme nous avons deux invités, j'ai décidé de faire un duel de femmes, Catherine Meurice contre Eva. Mais mesdames, vous avez droit au Joker Jules, à savoir vous appelez un ami pour lui demander son avis et cet ami c'est Jules. C'est un vrai faux sur le dessin, Eva.
Oh non.
Vous avez toutes vos chances. Eva Rock, on connaît les éléphants qui prennent un pinceau pour faire des toiles, mais là, plus étonnant. L'année dernière, l'entreprise Swatch a demandé à une truie artiste peintre de lui dessiner sa dernière montre. Vrai ou faux ?
Je me souviens qu'il y avait un animal là qui devait dessiner, mais je ne savais pas que c'était pour Swatch. Ça me paraît bizarre cette histoire.
Arrêtez de déblatérer, donnez-nous une réponse.
Ah, je dis vrai.
Vous dites vrai ?
Oui.
Vous dites un peu au hasard ?
Bah oui.
Je vous laisse une deuxième chance. Vous répondez quoi ?
Vrai.
Merde, oui, vrai ! L'artiste truie s'appelle Picasso.
Oh. Ah oui, voilà, c'était ça.
Elle a dessiné une Swatch. Vous pouvez suivre Picasso sur Instagram. Elle a 25 000 abonnés.
C'est un calembour de Jules, ça.
25 000 abonnés sur Instagram. Jules en a 3 000, moi 5 000, Catherine Meurice 12 300. Si on additionne tous nos abonnés, on n'en a pas autant que Picasso. Comme quoi, on vit dans un drôle de monde. Catherine Meurice. Éric Piédois-Letièque est un faussaire de grand talent. Il a peint des Chagall, des Lautrec, fait de fausses compressions de César. Il est devenu tellement connu que certaines de ses œuvres ont plus de valeur aujourd'hui que les originaux. Vrai ou faux ?
Vrai.
Faux. Par contre, il a fait de nombreux séjours en prison à Fresnes, Nice et Marseille. Eva Rock, qui a dit « Il était tellement con que quand il disait quelque chose d'intelligent, il se retournait pour voir si c'était pas un autre. » Ski, Gueluc ou Pétillon ?
Vous pouvez la redire parce qu'elle est géniale, la phrase.
Vous pouvez répéter la question ?
Oui.
« Il était tellement con que quand il disait quelque chose d'intelligent, il se retournait pour voir si c'était pas un autre. »
Et donc, vous avez dit Volinsky, Cabu ou...
Non, Gueluc ou Pétillon.
Ah, Pétillon. Non, j'aurais dit Volinsky.
Mais c'est un sans faute pour Eva Rock. Il a dit aussi, le premier homme qui est mort, il a dû être drôlement surpris. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Catherine Meurice. Attention, cette question va vous départager. Les mangas ont parfois une imagination débordante. Il existe un manga qui s'appelle « Tu seras un saumon, mon fils ». L'histoire d'un lycéen qui, à force de se masturber au-dessus d'un fleuve, a eu un enfant mi-humain, mi-saumon. Vrai ou faux ?
Moi, je dirais vrai. Ouais.
Vous dites vrai ?
Ouais. Ouais.
Puis imaginez de l'imagination. Et oui, c'est vrai.
Oh là là, mais...
L'enfant saumon s'appelle Soman. Il est signé Shohei Sasaki et on l'embrasse. Qui remporte le quiz ? C'est Jules qui remporte le quiz.
Eh oui, le vide est souvent plus fort que le plein.
Exactement, une fois de plus. Ils sont les parrains de l'année de la BD juste avant de filer à Angoulême. Catherine Meurice et Jules passent l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Ne nous reposons pas sur nos lauriers. Ne pensons pas que l'histoire est écrite d'avance. L'amitié franco-allemande doit se cultiver. Ne serait-ce que parce que, même après toutes ces années, on le sait hélas, les vieux réflexes resurgissent vite, au détour par exemple d'une compétition sportive.
Là je tourne la tête, je vois un Allemand et j'étais quasiment à 9 mètres et j'entendais quelqu'un qui me disait tire.
Je vois un Allemand. On dirait la grande vadrouille.
Et oui, en cette journée de l'amitié franco-allemande, nous irons prendre des nouvelles de nos amis d'Outre-Rhin avec la correspondante d'Europe 1 à Berlin, Hélène Kohl. Ce sera juste après Marie-Flore. Tout ou rien sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Avec nos invités Catherine Meurice et Jules, nous fêtons cet après-midi le lancement de l'année de la bande dessinée. Et Eva, une fête n'arrivant jamais seule, c'est aujourd'hui également la journée de l'amitié franco-allemande. Une amitié qui ne se décrète pas, mais qui se cultive, comme l'a découvert à ses dépens notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl, qui a mis quelques années à s'acclimater, dirons-nous, aux mœurs germaniques. Au début, elle était un peu coinsauce.
On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière, et on finit... En farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout, on ne regrette pas sa soirée.
Je raffole ce genre de soirée.
Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu.
Alors vous vous êtes acclimaté. Aujourd'hui, c'est la journée de l'amitié franco-allemande. Et franchement, tout le monde s'en tape, Hélène, non ?
Oui, c'est la date d'anniversaire du traité entre l'amitié et la France. Et qui le sait, en 63, signé par Adenauer et De Gaulle, qui à l'époque apprenait par cœur et en phonétique ses discours en allemand. Écoutez.
Und Sie alle beglückwünsche ich. Ich beglückwünsche ich zunächst Jung zu sein.
Ça, c'est Roland Giraud dans Papy fait de la résistance. Hein.
Eh non, c'est une vraie archive de De Gaulle à Bonn. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours sur la main tendue, la réconciliation, etc. Depuis 63, en fait, des liens se sont tissés et même des histoires d'amour. Et puis, comme dans les vrais couples, eh ben, la passion s'émousse, on ne se regarde plus. On ne va pas forcément voir ailleurs, mais on zappe les fleurs pour la Saint-Valentin, on la date de l'anniversaire de mariage.
On s'en dit vécu.
Au plus haut sommet de l'État, à Berlin, comme à Paris, on a beau nous répéter que rien ne remplace cette relation absolument unique entre la France et l'Allemagne. En fait, il ne faut pas se leurrer, il ne se passe plus grand-chose. Comme le disait récemment un diplomate, en ce moment, le franco-allemand, c'est encéphalogramme plat.
Et est-ce que c'est grave, Hélène ?
Alors oui, si on considère que le fameux couple franco-allemand, c'est le moteur de l'Europe, alors là, clairement, il y a un manque d'envie mutuelle et même pas l'envie d'avoir envie, donc ça ne fait pas tourner la machine. Mais c'est surtout qu'en pensant trop bien se connaître, eh ben, on se replie sur nos certitudes hein, et donc on se replie aussi sur nos clichés. Et je suis sûre, grosso modo, autour de votre table, Mathieu, que tout le monde en est resté à « non ou non si je l'ouvre-balance ».
Vous ne croyez pas si bien dire, j'ai failli vous la mettre en intro.
Parce qu'en fait, vu de France, la vision de l'Allemagne contemporaine, c'est quoi ? C'est surtout chaussettes, sandales, les saucisses, la bière et inversement. Les Allemands, eux, sont bloqués sur l'accordéon.
Non.
Voyage.
Mais non.
Et Amélie Poulain. Et puis, une petite anecdote personnelle, quand il faut faire un gâteau au jardin d'enfants, hein, et ben c'est sur qui que ça tombe ? C'est sur moi, parce que c'est bien connu, les Français savent mieux cuisiner que les autres. Donc, c'est quand... Et puis, c'est, voilà, systématiquement, le gâteau, ah, Hélène doit faire le gâteau. Alors, c'est ainsi qu'on rate en fait des petites pépites comme cette chanson qui a eu beaucoup de succès ici l'an dernier et qui n'a pas du tout passé la frontière vers la France. C'est un duo entre une jeune chanteuse de pop allemande d'origine marocaine et le rappeur français Black M. Ça s'appelle « Je ne parle pas français » et ça fait rimer « Deutsch » avec « French touch ». Ça nous rappelle juste que le franco-allemand, ça peut être frais et festif, loin des déclinaisons de la grammaire et des clichés.
J'ai pas l'accent, mais d'où me fais-je venir ? Est-ce que tu me comprends ? Je te verrai bien comme elle dans ma vie.
Je ne parle pas allemand, mais comme toi je ressens les gens. Viens, on parle, y'a rien de méchant, je te redéposerai sur les champs.
Je ne parle pas français, à ma veterie.
Sympathique, ça.
On va le remettre
ouais,
à la mode.
Ça n'a pas du tout passé la frontière. Ça s'appelle Namika. Namika s'appelle la chanteuse. Ça s'appelle Je ne parle pas français.
Eh bien, merci Hélène Cole et surtout un message personnel à Monsieur Cole, Helmut, probablement de son prénom. Offrez des fleurs à Hélène pour la Saint-Valentin, visiblement. Ça lui manque. Merci Hélène Cole.
À bientôt. Europe 1.
Ils se sont battus comme des chiffonniers, peut-être que parmi eux se cache le futur gagnant du jour, mais l'heure est bientôt venue de remercier nos deux premiers concurrents cet après-midi, Anis Mbida et Mathieu Charrier, qui s'apprêtent à céder leur place à deux autres prétendants au titre de chroniqueur du jour, Nicolas Carreau, qui va nous parler de l'inoxydable Alexandre Dumas, qui inspire toujours auteur et réalisateur 150 ans après sa mort, et puis inoxydable lui aussi, moitié titane, moitié aluminium, il est désormais 1h40 d'autonomie grâce à sa nouvelle prostate en Kevlar, notre consultant scientifique Alain Sirou, le doyen de l'équipé sauvage arrive.
C'est étrange parce qu'on pensait qu'il était mort.
Oh, ultime vacherie de Mathieu Charrier avant de céder sa place. C'est minable.
L'équipé sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Jadis si proche, si soudé, désormais si haineux et mesquin. Oui, toute notion de solidarité a déserté l'âme des journalistes d'Europe 1 depuis qu'ils sont en compétition chaque après-midi. Un seul ressortira de ce joyeux foutoir avec la couronne de chroniqueur du jour sur la tête. Enfin, si elle tient, car on a beau la bricoler, elle se désagrège de jour en jour.
Un peu comme la chanteuse Jeanne Masse.
Oui, enfin non, qu'est-ce que vous racontez, va ? Qu'est-ce que vous dites ? Bref, une deuxième heure s'annonce. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre, toujours en présence de Catherine Meurice et Jules. Jules, l'invité qui voyait des contrepéteries partout. L'auteur de 50 nuances de grec, l'encyclopédie, le tome 2, idéal pour réviser ses mythes.
Je sens qu'il y a une espèce de contrepétrie que je ne trouve pas.
Mais non, toujours pas des contrepétries, c'est pas possible cet esprit. Allez, avançons.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Le froid polaire qui règne sur le pays aujourd'hui n'a d'égal que la chaleur qui brûle dans mon cœur.
Ah, Oscar Wilde.
Non, Philippe Risoli dans Le Juste Prix. Oui, je suis gay cet après-midi et ravi de vous accueillir pour la phase finale du premier tournoi journalistique de France, l'équipée sauvage, 2 heures au service de votre bonne humeur et de votre savoir, qui à notre contact va vite devenir encyclopédique. Mais aujourd'hui, cette bonne humeur est fragile, car nous recevons
outre la délicieuse et talentueuse Catherine Meurice, le non moins talentueux mais plus vicieux Jules, dit le briseur d'ambiance. Comme nous l'avions découvert le 13 novembre dernier, jour de mon anniversaire, où un journaliste, Axel de Tarlet, était venu en studio avec des petits ballons pour fêter l'événement, c'était très mignon, mais Jules n'avait pas pu s'empêcher de glisser une petite remarque pointant du doigt le budget famélique d'Europe 1.
Mon cher patron, mon cher boss, aujourd'hui, je vous fête votre anniversaire. Joyeux anniversaire, patron.
Alors, je sais pas pourquoi, mais les couleurs du ballon, c'est les couleurs du drapeau de la Roumanie, donc s'il y a un message...
Si vous n'aimez pas vous amuser, n'en dégoûtez pas les autres, Jules. Ensemble, Jules et Catherine Meurice, on continue d'évoquer l'année de la BD et le Festival d'Angoulême qui arrive. Juste le temps de vous présenter nos deux ultimes journalistes en compétition ce soir. À ma gauche, il a longtemps hésité entre l'anonymat et le vedettariat. Au terme d'une longue réflexion, ayant étudié tous les avantages et les inconvénients des deux situations, il a conclu ainsi.
Soit on est une vedette et alors on subit des moqueries, soit on ne subit rien, mais en revanche, on n'est rien.
Et il a choisi l'anonymat. Bonjour Nicolas Caron.
Bonjour.
Anonymat relatif, puisque vous êtes quand même l'expert littérature d'Europe 1, oui. Plutôt l'expert Alexandre Dumas d'Europe 1, puisqu'en l'espace de 2 mois, c'est déjà la 2e chronique que vous lui consacrez.
Mais oui, mais je le fais aussi pour Catherine
Meurice.
Oui, non,
mais je sais que vous aviez prêt, mais bon, disons que vous recyclez, quoi.
Pas du tout, il y a tellement de choses à dire. Dumas, je pourrais faire toutes mes chroniques sur Dumas.
C'est vrai. À ses côtés, personnage fascinant qui avait d'ailleurs inspiré à Hergé le célèbre professeur Tournesol. Pas vrai, Alain?
Il faut parler plus fort.
Je dis que vous avez inspiré à Hergé le personnage de Tournesol. Bref, il dirige actuellement la prestigieuse revue scientifique Ciel et Espace, même si parfois, au détour d'une phrase, ce stage qu'il avait fait chez Penthouse à ses débuts dans le journalisme se fait encore sentir.
C'est un astre obèse qui se dilate, se contracte.
Oui, bonjour Alain Ciron.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, vous le savez Alain, souvent je me demande si vous avez bien toutes les frites dans le même cornet, comme on dit à Bruxelles, mais particulièrement aujourd'hui, puisque vous nous parlez d'un satellite traqueur de fantômes.
Ouais.
Franchement Alain, commencez l'apéro avant 18h.
Non, j'ai décidé de parler d'Euclide. Un clin d'œil d'abord à Jules pour le géomètre grec, et puis aussi un clin d'œil à Catherine Meurice qui a illustré un ouvrage Gallimard Jeunesse, je crois, qui s'appelle L'homme, comment l'homme a compris à quoi ressemblait l'univers. Eh bien, on va parler d'univers, de fantômes et de géométrie.
Eh bien, je dis bien joué. En tout cas, vous avez déjà placé le nom des deux invités dans votre intro. C'est fort. Le comeback sans fin d'Alexandre Dumas ou bien le télescope traqueur de fantômes. Quel sujet l'emportera? La réponse juste avant 18h. Vous votez via Twitter. En attendant, à l'occasion de l'année de la BD que nous fêtons aujourd'hui avec nos invités Jules et Catherine Meurice, on s'est posé la question, quelle place la BD occupe-t-elle dans votre vie? Eh bien, visiblement, une place variable.
C'est fini là pour moi la BD, non? Ah oui, je lis des livres, mais je ne lis pas de BD. Bah voilà, on peut pas tout faire. Hein.
C'était des classiques, c'était Tintin, c'était Astérix, voilà. Bah en fait, dans notre famille, tout le monde lit des BD, donc même nos grands-parents.
Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangas. Quand j'étais petit, je lisais ce qu'on appelait des shonen, donc c'est des mangas pour adolescents, là où il y a beaucoup de combats, Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, tout ça.
L'Arabe du futur, bah ça c'était top. Il y a une BD que j'aimerais lire. C'est l'homme le plus flippé du monde, Théo Grosjean, qui parle de son trouble de l'anxiété généralisée et qui fait des blagues dessus en BD. Et je me tâte à l'acheter et ça se fera peut-être.
Moi, s'il y a bien une BD que j'aime beaucoup lire, c'est Largo Winch. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre que le prochain épisode sorte et tout. Donc,
Moi, j'ai plutôt été élevé avec Proust, Kafka et ça, c'était mes BD, voyez-vous.
Moi, j'en ai déjà lu une de BD.
N'est-il pas croqué, ce petit chou? Oui. Jules, Catherine Meurice, on évoquait tout à l'heure votre rencontre. Vous avez tous les deux des styles assez différents, mais vous avez commencé par le dessin de presse. Ça vous relie. Comment, je pense juste sur la technique, Catherine Meurice, quand on voit sur Europe1.fr en vidéo ce que vous faites, et on comprend pourquoi vous êtes sous la coupole maintenant des Beaux-Arts. Vous avez pris des cours. Comment ça se passe? Comment on atteint ce niveau de...
En travaillant, ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier.
Il n'y a pas que le travail, il y a un peu de talent. Déjà petite, vous aviez un...
Oui, mais je crois comme tous les dessinateurs, Jules pourrait, je suis sûre que tu vas répondre la même chose.
À quel âge on découvre son talent?
Déjà, je crois que les autres le découvrent pour nous, mais j'ai mis du temps à faire des études de dessin, par exemple. J'ai attendu longtemps, j'ai fait des études de lettres avant, je n'étais pas très sûre de mon coup, puis surtout, je ne voyais pas ce que ça pouvait être concrètement, je ne voyais pas quel métier faire, j'avais vraiment aucune idée. Et c'est quand j'ai rencontré Jules, bien sûr, Jules, qui m'a donc sorti de la misère poitevine. Voilà, et non, vraiment, quand j'ai découvert le dessin de presse, je me suis dit, c'est génial, j'ai un métier, c'est concret, on va faire un journal, etc. Et en plus, je vais être payée, je vais pouvoir. Bon, bref. Et voilà, et en parallèle, je faisais des livres jeunesse que vous avez cité tout à l'heure, des albums de bande dessinée, et puis je bricolais dans mon coin, peinture, encre de Chine, plume, puis j'ai continué. C'est vrai que dans mes albums, je parle souvent d'art et de littérature, et je regarde beaucoup les peintures, et c'est ce qui me fait progresser, je crois, enfin j'espère, Voilà. Oui, c'est comme ça qu'on apprend.
On peut vous le confirmer. Jules, vous, c'était quoi le déclic ? À quel âge vous vous êtes dit, tiens, je vais en faire mon métier, ou en tout cas, j'ai envie de faire que ça, quoi, du dessin ?
Mais je ne sais pas encore si c'est ce qui va m'arriver pour le restant de mes jours, mais j'ai quand même un souvenir très net. Georges Volinsky avait eu ses enfants dans mon lycée, et donc il avait accepté de donner un dessin original pour une vente de charité ou un petit quelque chose organisé. Et comme les profs de mon lycée savaient que je dessinais déjà, je faisais des fanzines que je vendais à mes copains, c'est moi qu'ils ont envoyé chez Georges Volinsky pour aller chercher l'original du dessin. Et donc j'ai sonné chez lui, j'étais très impressionné, je devais être en classe de première, et donc je suis arrivé dans son atelier, et il m'a fait le grand jeu. Il m'a fait une espèce d'interview comme ça, il m'a dit « Mais oui, alors tu dessines, t'as une copine ?» Alors, j'osais pas répondre. J'ai oui, plus ou moins. Enfin, c'est compliqué.
Ma mère.
Bon, il faut la. Non, mais. Ma mère, c'est pas le dire. Non, il m'a dit non, mais alors, il faut que tu la dessines à poil tout le temps. C'était le premier conseil dans la vie. Et je suis reparti tremblant avec cet original de Volinsky sur mon petit vélo pour le ramener au lycée. Et avec cette image de fille à poil à dessiner. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est probablement un genre de déclic, hein, un des premiers déclics.
Ça a été le début de l'aventure. Avec eux, c'est un peu Angoulême avant l'heure. Jules et Catherine Meurice sont nos invités jusqu'à 18 ans.
Europe 1.
À suivre, il est actuellement 5e du championnat européen des meilleurs journalistes, place qui reflète l'intérêt mitigé que portent nos invités à la littérature, son domaine de compétence. Car c'est le problème de la littérature, les gens aiment, mais de là à passer à l'acte, c'est pas simple, comme nous l'explique hors antenne certains invités.
Il paraît que vous aimez la littérature.
J'aime ça, mais de là à lire...
Ah oui, carrément.
Oui, ça arrive qu'on ait des confessions comme ça hors antenne. Alors, pour ne pas trop vous brusquer, ce soir, Nicolas Carreau a renoncé à nous parler de la sémantique chez Julien Gracq pour évoquer le plus populaire des écrivains français, Alexandre Dumas. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue sous l'œil de nos invités d'honneur, les parrains de l'année de la BD en France, Jules et Catherine Meurice. On continue de parler 9e art, mais la compétition n'attend pas. Passé 17h chaque après-midi, nos journalistes deviennent intenables. Les reflets chamoirés de la prestigieuse couronne de chroniqueurs du jour leur tournent la tête, obscurcissent leur jugement, les dépouillent de toute forme d'altruisme et ils sont prêts à tout pour l'emporter, même à piétiner un collègue déjà à terre après une contre-performance. Nicolas Carreau l'a vécu avec Alain Sirou lors de leur dernière opposition qui s'est conclue par ces mots terribles.
Oui, je sais, je suis qu'une merde.
C'est pas faux. Hein.
Alors, il n'y a pas que Catherine Meurice qui est fan d'Alexandre Dumas, il y a vous aussi.
Mais oui, justement, je voulais vous parler de Dumas à cause de Catherine Meurice, mais il y a beaucoup de choses à dire parce que Dumas qui est toujours en vie et qui inspire, c'est la preuve, encore aujourd'hui, les arts de notre époque, particulièrement les séries télé, le cinéma et la bande dessinée. C'est l'auteur le plus adapté. En France, les séries, par exemple, c'est très clair. Vous savez que les Trois Mousquetaires et Monte Cristo ont été publiés en feuilleton dans les journaux. Et bien, Dumas est passé maître dans ce qu'on appelle aujourd'hui, mais c'est quasiment lui l'inventeur, dans le cliffhanger, c'est-à-dire ce moment en suspens à la fin d'un épisode ou d'un chapitre qui donne envie de lire la suite le plus vite possible. Ça, c'est pour le format, mais les œuvres elles-mêmes de Dumas ont été adaptées en série. Le Comte de Monte Cristo, on connaît la version de José Dayan avec Gérard Depardieu. Au passage, c'est Didier Decoin, le tout nouveau président du Goncourt, qui avait écrit l'adaptation, le scénario. Et c'est loin, très très loin, d'être la seule adaptation.
Au cinéma, bien sûr.
Et bien, il y a évidemment, oui, la version de 1954 avec Jean Marais, c'est un classique. Mais il y a eu pratiquement une quarantaine de tentatives d'adaptation de Monte Cristo.
Pourquoi tentatives ? Parce que c'était pas réussi d'autant.
C'est pas toujours réussi, effectivement. Il y a même eu Le Fils de Monte Cristo qui n'est pas très réussi en 1940. Les romans aussi ont repris l'histoire de Dumas. Le dernier en date, c'est Lord Gwynplaine, sous-titré Monte Cristo revient, mais signé de deux maîtres du roman noir. Jean-Bernard Pouy et Patrick Reynal, ils ont publié ça il y a 2 ans. C'est l'histoire d'un pilote, Erwan Le Dantec, accusé à tort et qui revient se venger sous le nom de Lord Gwynplaine. Je compte pas les versions théâtre. Et puis, il y a donc la bande dessinée avec un succès, entre autres, la BD intitulée Dantès. Cette fois, c'est un trader des années 80, accusé à tort encore et qui revient se venger encore. Dantès, je précise, hein, c'est Edmond Dantès. L'origine de Monte Cristo.
Et ça, c'est seulement pour Monte Cristo.
Oui, il faut compter autant d'adaptations sur tous ces formats-là pour les Trois Mousquetaires et même plus. Voilà, il y a eu notamment L'Homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Louis XIV et de son jumeau. Et puis Depardieu dans le rôle de Porthos. C'est très rare une adaptation de Dumas sans Depardieu. Il faut dire qu'il ressemble même à l'auteur. C'est d'ailleurs lui qui a joué le rôle de l'écrivain dans l'autre Dumas avec Benoît Poulvorde. Je dis qu'il y a autant d'adaptations que Monte Cristo, mais en fait c'est beaucoup plus. Pour les Mousquetaires, il y a même eu les comédies musicales et bien sûr le dessin animé.
Oh,
toute mon enfance. Bah, voilà. C'est tout ce qu'on veut. Lorsque l'on non, il va chercher pas, c'était mon enfance à moi. Non,
mais,
pas la
oui, je sais, mais maintenant avec la musique,
au
ça
passage,
revient.
Vous avez entendu, ouais. Un pour tous et tous pour un, ils font l'erreur très commune d'inverser la devise. La vraie, l'original, c'est tous pour un pour tous dans le roman.
Ah d'accord.
Voilà, enfin j'ai fait les deux principaux, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres de romans et pièces de Dumas qui ont été adaptés. Il y a les Compagnons de Jéhu, il y a les Frères Corse, il y a la Reine Margot, on pourrait y passer la soirée.
Dans le dessin animé, j'étais trop amoureux de Milady.
Ah oui,
bah, bah, évidemment. Ouais. Bah, oui, mais ça, on ne peut pas l'avouer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ouais. La zoophilie est mal vue. On ne peut pas le dire. Catherine Meurice,
elle est un peu gothique.
Quelle est la genèse de ce magnifique ouvrage, Delacroix, donc, basé aussi sur Alexandre Dumas? C'est un texte d'Alexandre Dumas qui vous a inspiré.
Oui, c'est un texte que j'ai découvert il y a longtemps, à l'époque où Jules m'a découverte. Vraiment, c'était il y a longtemps.
Tout est lié.
Et non, mais c'est pour tenter d'être un petit peu original, j'ai pris un texte de Dumas qui n'est pas du tout connu. Ça s'appelle Une causerie. Et donc, quand j'avais découvert ce texte vraiment par hasard en librairie, j'avais tout de suite eu l'idée de l'illustrer. Donc j'avais fait ça il y a 15 ans, j'avais fait vraiment le service minimum à l'époque, et puis là je l'ai complètement repris, je l'ai mis en couleur, j'ai osé la peinture, la couleur, je voulais faire
un livre...
Vous avez
bien fait d'oser la peinture. Hein.
Extrêmement, voilà, je voulais faire une fête pour l'œil, pour reprendre une expression d'Eugène. De la Croix, et je me suis beaucoup amusée, ouais.
Mais je sais pas comment l'exprimer, mais c'est un livre qui est à la fois érudit, parce qu'on apprend plein de choses sur, oui, de la Croix, mais en même temps très accessible, enfin vraiment...
Oui, je cherche pas ce soit. Je sais pas un texte qui exclut les lecteurs. Au contraire, il y a vraiment cette bonhomie et cette générosité, ouais, d'Alexandre Dumas. Et puis, on parlait du médium bande dessinée, qui est, comme disait Jules, snob. Et qu'est-ce que t'as dit, snob et
ultra populaire.
Et aussi ultra populaire. Et là, c'est vraiment un texte ultra populaire et un médium populaire mélangé.
Pour la devise qui doit être gravée sur l'épée d'académicienne, snob
ça
ultra
ça
populaire.
Est, là,
ça irait très bien, Catherine.
Merci en tout cas, Nicolas Caro. Votre chronique mérite-t-elle 3 points? Nos invités trancheront juste avant 18h. Alain, si vous devez retenir un truc vraiment intéressant dans la chronique de votre adversaire...
C'est chercher une aiguille dans une botte de foin.
Merci.
Europe 1.
À suivre, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Telle est la question qui ne va pas tarder à vous agiter. Avant que vous ne vous preniez la tête à ce sujet avec votre conjoint, Eva Rock intervient et vous conseille. Aujourd'hui, elle nous parle de Camus, car ne l'oublions jamais, la littérature est sa deuxième passion après la télé. Ça se sent d'ailleurs à chaque fois qu'on reçoit un écrivain. Elle est béton sur sa bio. Remember Daniel Picouli.
Mais est-ce que vous aimeriez faire partie d'un jury ou pas du tout?
Mais moi, je fais partie de 4 jurys.
Les conseils télé et écran d'Eva Rock, c'est juste après cette chanson que Tom Jones a d'ailleurs écrite pour Eva Rock. Sex bomb sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Une bande de doudingues, une compétition rieuse et des invités passionnants, c'est la recette de votre cocktail anti-sinistrose. Et question cocktail, elle s'y connaît. Souvent vers 17h30, elle s'exclame.
J'ai envie d'un spritz et d'un autre spritz.
Et ben, est à mes côtés, comme d'habitude, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour rire et découvrir en compagnie de 2 invités d'honneur ce soir, Catherine Meurice de l'Académie des Beaux-Arts et Jules de l'immeuble en face de chez moi. Vous êtes tous les deux les parrains de l'année de la BD en France, les amis. Alors, Jules, Silex and the City, 50 nuances de règles ont été adaptés en film d'animation pour Arte, en série d'animation. Vous, Catherine Meurice, à quand une série animée? Il est temps un petit peu de se diversifier. Maintenant, vous êtes une star.
Eh bien, j'espère qu'on vous écoute. non, mais oui, pourquoi pas? Bah oui, allez-y. Oui.
Les amis, l'heure du pragmatisme a sonné. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir? Une seule personne a la réponse. Eva Rock, hier, vous m'avez dit...
Brut.
Je n'ai pas pris ombrage de cette insulte. Je vous écoute pour le programme de ce soir.
Non, mais vous l'avez dit, on va parler de Camus, d'Albert Camus. Parce que vous savez, pour de nombre de collégiens et de lycéens, c'est souvent l'auteur de L'Étranger, de La Peste. Mais Camus, il était beaucoup plus complexe. Et un documentaire qui est remarquable, diffusé ce soir sur France 3, signé Georges-Marc Benamou, le prouve. Alors son titre, c'est tout simple, ça s'appelle Les vies d'Albert Camus. Alors Camus, l'homme de la Méditerranée, Camus le révolté face aux événements en Algérie, Camus l'écrivain, bien évidemment, qui s'est arraché à sa condition sociale de gamin pauvre d'Alger grâce à un instituteur et grâce au foot. C'est le début de ce documentaire. Et puis il y a Camus, l'homme amoureux, c'est ça dont je voulais vous parler, de Francine, évidemment, sa femme et la mère de ses enfants, de Mette, qui est une de ses dernières conquêtes qui témoigne dans ce documentaire. Catherine Sellers, qui était comédienne, et puis Maria Cazares, c'est le grand amour de sa vie, qui a accepté de n'être que la maîtresse. Et c'est Catherine, la fille d'Albert Camus, qui le raconte.
Maria, elle a écrit qu'elle avait accepté de vivre à 75%. Elle a accepté que papa ne divorce pas, qu'ils ne vivent pas toujours ensemble. C'est peut-être ce qui a fait que cet amour a toujours duré.
Alors ça a duré pendant des années. Albert et Maria, c'était le couple que l'on voyait danser dans les caves à Saint-Germain-des-Prés. Alors c'est une des nombreuses facettes de Camus qu'explore ce documentaire qui est absolument riche en archives et qui est rythmé par des témoignages émouvants comme ceux de Maître dont je vous parlais et de Michel Bouquet aussi, qui le jour de la mort de l'écrivain, c'était il y a 60 ans, s'est demandé comment vais-je faire sans lui. Voilà, c'est très beau, c'est sur France 3 à 21h05.
Question que je me poserai aussi le jour où, le cas échéant, vous ne serez plus à mes côtés, mais c'est dans mon temps.
Espérons-le. Ce que vous venez
on touche
dire.
Du bois.
C'est horrible.
Quel dommage qu'il n'y ait pas de bois autour de moi. Merci Eva pour vos conseils télé.
Europe 1.
À suivre, personnellement, j'ai commencé à envisager l'hypothèse que peut-être il avait un peu les fils qui se touchent, comme on dit à Cap Canaveral, lorsqu'il a déclaré l'autre jour, je cite...
Le soleil, c'est un bon pépère.
Le soleil, c'est un bon pépère. Dans la bouche d'un type censé diriger la très sérieuse revue Ciel et Espace, avouons que ce n'est pas rassurant. Pourtant, j'ai choisi de conserver ma confiance. À Alain Sirou, ai-je eu raison quand il m'a annoncé qu'aujourd'hui, il allait, je cite, « chercher la matière noire de l'espace avec un gros télescope traqueur de fantômes ». J'ai compris qu'Alain gagnerait à consulter. Enfin, j'espère qu'il sera quand même en état de faire son papier ce soir. Comment vous vous sentez, Alain ?
Armageddon.
Oui, bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui parle d'une même voix à vos neurones et à vos zygomatiques. Deux heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui défilent au micro sous l'œil d'invités toujours hyper sympas comme le comédien Frédéric Bourali, alias José de Scène de Ménage, lundi, qui ne tarissait pas d'éloges sur nos chroniqueurs.
Et en plus, c'est des amours de mecs, c'est des mecs formés. Bon, ils ont un physique ingrat, ça.
il devait parler d'Anissa, évidemment. Aujourd'hui, ce sont les parrains de l'année de la BD en France qui nous accompagnent, Catherine, Meurice et Jules. Juste avant de prendre le train pour Angoulême, est-ce que vous allez gagner le Grand Prix, Catherine ? Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, tout s'accélère pour vous. Vous êtes sous la coupole des immortels de l'Académie des Beaux-Arts et maintenant, vous êtes aussi en lice pour le Grand Prix à Angoulême cette année.
Oui, je ne sais pas pourquoi ça sent la ménopause. Je sais rien. Le Grand Prix, je ne sais pas. Je suis en lice avec Chris Ware et Emmanuel Guibert qui sont deux auteurs que j'admire. Donc, je serais très contente que l'un ou l'autre lève. Enfin bref, que vous répondre.
Jules admire votre fair play parce que lui, je peux vous dire que s'il était nommé, ouais. Il aurait déjà passé des coups de fil tous azimuts.
Et d'ailleurs, est-ce que vous aviez postulé à l'Académie des Beaux-Arts, Jules ?
Non. Jamais. Mais maintenant que je sais que j'ai un moyen de pression sur Catherine, je vais le faire.
L'heure est venue, les amis, d'écouter notre ultime concurrent du jour. Comme ses lunettes, il revient de très très loin.
D'une lointaine galaxie, à quelques 40 000 années-lumière de notre système solaire.
En effet, vendredi dernier, alors qu'il tentait un bon mot face à notre invité, le comédien Thibaut de Montalembert, il est tombé dans ce qu'on appelle dans le petit milieu de l'humour un bide intersidéral. Un vortex de la gênance, un trou noir du lol. Tout s'est joué très vite.
Donc, ils ont perdu les étoiles, Bocuse, c'est ça ?
Ils ont perdu la troisième étoile.
Faut remplacer les étoiles par des galaxies, c'est plus simple.
Par
des galaxies.
Ah oui.
Alors Alain, ce soir, pour oublier tout ça, pour sortir de ce vortex de la loose, vous allez décider de traquer les fantômes en goguette dans le cosmos.
Oui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet extrêmement compliqué en 2 minutes, 4 milliards d'années résumées. Non, plus simplement, je vais vous parler d'Euclide. Euclide, c'est un satellite qui va partir dans 2 ans, qui est fait par les Européens et qui est chargé de percer un mystère absolument incroyable. En un siècle, on a 3 mystères fondamentaux dans l'histoire de l'univers.
Qui sont ?
Le premier, c'est dans les années 30, c'est Hubble qui regarde le ciel avec un grand télescope et qui se rend compte que les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres, d'autant plus rapidement qu'elles sont loin. On découvre que l'univers est en expansion. Ça s'appelle le Big Bang. Tout le monde connaît le Big Bang.
Ah oui.
Ou en tout cas, on a entendu parler. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans les années 30 aussi, puis surtout en 1970, on découvre une deuxième chose, un deuxième mystère absolument incroyable. On essaie de peser les galaxies, savoir quelle est leur masse.
Mais comment on peut peser une galaxie ?
C'est compliqué, je vous passe les détails. Mais on essaie de les peser et on découvre quelque chose. Alors vous faites combien ? 70 kilos par exemple ?
Vous êtes bien gentil.
Tout nu, 70 kilos.
86.
Bon, admettons, c'était plus facile pour mes calculs.
Ah mince, pardon, 70 kilos. 70 kilos. Ouais, oui. Donc, vous êtes censé être expert scientifique. Les calculs ne devraient pas vous faire peur, mais enfin bon. Si vous voulez.
Montez sur une balance et vous attendez à avoir 70 et là vous voyez 350 kilos. Vous dites, la balance, elle a un problème. Et puis vous descendez, mais vous changez de balance et c'est toujours 350 kilos.
Oh, que s'est-il passé, Alain ?
Et c'est ce qu'on découvre dans les galaxies, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une matière invisible qui pèse et dont on ne connaît pas la nature. On va appeler ça la matière noire.
Ça fait peur.
Deuxième grand mystère. Mais j'en rajoute un troisième qui est absolument fondamental. Au début des années 90, on découvre, avec des grands télescopes en regardant loin dans l'univers, que...
Les extraterrestres ?
Non.
Ah non, mince.
Mais l'univers est en expansion, mais pire que ça, l'expansion s'accélère.
C'est-à-dire qu'on voit les galaxies aller de plus en plus vite, plus on est loin. Et là, les astronomes se disent, il se passe quelque chose. C'est comme si vous aviez de la levure dans un gâteau, vous voyez, ça grossit. Il y a quelque chose que nous ne connaissons pas.
Une
un
matière.
Fantôme supplémentaire, après le fantôme de la matière noire, c'est une énergie qui, en quelque sorte, dilate l'espace et qui fait qu'elle s'accélère. Et donc, on va appeler ça l'énergie noire et on va se dire, mais il faut qu'on trouve ce que c'est. Donc, on fait des expériences, des tas d'expériences. On construit des laboratoires, on essaie d'attraper des particules fantômes au CERN à Genève, etc. Et en 20 ans, on ne trouve rien, nada, que dalle. On ne sait pas ce que c'est.
Jusqu'à
alors,
hier.
On se dit, bon, bah, très bien, c'est des mystères. Sauf que quand on fait la masse de tout ça, on se rend compte que l'énergie noire pèserait 70% de l'univers, la matière noire pèserait 25%, et toutes les étoiles, nous, vous, etc., 5%. Ça veut dire que l'essentiel a disparu. Donc on est dans un mystère considérable. Nous vivons dans un monde de fantômes. Et alors ce télescope, il va partir dans 2 ans avec l'idée de cartographier très précisément tout l'univers, en tout cas 30 à 40% de l'univers, pour essayer d'avoir une carte en 3 dimensions de ces galaxies, la façon dont elles avancent, dont elles se sont déplacées dans le temps, pour essayer de comprendre ce que c'est. Ce grand mystère incroyable. Et je terminerai par une conclusion double. La première, c'est évidemment, c'est paraphraser Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible. Nous vivons dans un univers où nous ne voyons rien, mais nous pensons que cela existe. Et la deuxième chose, c'est une démonstration entre la théorie, la différence entre la théorie et la pratique, ou en tout cas l'expérience. La théorie, vous savez, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais personne ne sait pourquoi. Et là, j'ai essayé de mêler les deux, c'est-à-dire la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi.
Mais Alain, la dernière fois, vous avez apporté un morceau de météorite. Là, vous ne nous avez pas apporté un morceau de matière noire ?
Non, non, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Donc, vous pouvez appeler ça la force, vous pouvez appeler ça la quintessence, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un mystère suprême.
Mais est-ce que ça a à voir, pardon, le profane, hein, mais est-ce que ça a à voir avec l'antimatière ?
Peut-être, on n'en sait rien. Non, mais je ne peux pas vous répondre autrement. Nous ne savons rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on mesure mieux notre degré d'ignorance chaque jour davantage.
Catherine Meurice et Jules sont nos invités aujourd'hui pour fêter l'année de la BD en France. Et bientôt, vous partez tous les deux au Festival d'Angoulême. Est-ce que le Festival d'Angoulême, moi, je n'ai jamais eu la chance d'y aller, c'est un peu comme le Festival de Cannes, c'est un peu des soirées à gogo, du champagne qui coule à flot, ou c'est une autre ambiance?
Non, c'est plutôt une ambiance gastro et grippe. Ah et bon pas du tout. Non, c'est vraiment l'anti-festival de Cannes. C'est pour ça que ce festival est très sympathique. C'est que les auteurs ne se prennent pas du tout pour des vedettes.
Oui, mais vous faites un peu la fête quand même, sans faire.
Oui, bien sûr, oui, mais il n'y a pas de multipass, des badges hyper select pour rentrer au Carlton. Il n'y a pas de Carlton, il y a l'hôtel Mercure.
C'est pas mal,
mais bon. C'est un chouette festival.
On remercie en tout cas Alain Sirou pour sa chronique sur la matière noire. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points, Alain ? La réponse ne va plus tarder maintenant.
Europe 1.
Dans un instant, c'est un personnage de BD vivant qui nous rejoint. Petit, quand je collectionnais les albums d'Astérix, je n'imaginais jamais rencontrer en vrai, en chair plus qu'en os d'ailleurs. Et pourtant, un jour, dans les locaux d'Europe 1, j'ai rencontré Obélix.
J'adore manger, c'est un truc de fou.
Chaque soir, il vous sauve la mise pour le dîner avec une recette de dernière minute. Délice in extremis arrive avec l'inénarrable Olivier Pouls, alias l'aspirateur à sanglier.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Il y a 2 manières de voir les choses, l'optimiste et la pessimiste. D'un côté, c'est vrai, depuis qu'ils sont en compétition, les journalistes d'Europe 1 ne peuvent plus se blairer. Et dans l'open space, les insultes fusent.
Romagnon, macrocéphale, ectoplasme, pavois, mégalomane, flibustien !
De l'autre, ils sont meilleurs que jamais. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Vous votez via Twitter et nos invités trancheront juste avant 18h. 2 invités aujourd'hui, Catherine Meurice et Jules, parrain de l'année de la BD en France. Alors Catherine, à ce stade de l'émission, normalement, je laisse les rênes de l'interview à ma collègue Eva Rock. Mais vu que vous risquez d'être primée à Angoulême et sachant la difficulté qu'a Eva avec les phrases contenant le mot primée, je vais plutôt prendre la main. Hier, ça a été un peu compliqué.
Primé par des prix prestigieux. Non, mais oui, primé par des récompenses prestigieuses. Voilà.
Voilà, donc c'est moi qui vais faire l'interview plutôt.
Non, mais je ne crois pas.
Cette année de la BD, est-ce que c'est aussi une manière de susciter des vocations, de dire aux enfants qui la découvrent, oui, la BD, ça peut être une récréation, mais ça peut aussi être un métier. Ou est-ce que ça serait
dangereux de leur dire que ça peut être un métier finalement?
Ah, c'est une vraie question en fait. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire chaque année, c'est prendre des stagiaires de troisième. Vous savez, il y a toujours des stagiaires d'observation.
Ils ont de la chance.
Chaque boîte, comme ça.
Il y en a qui sont chez Sodexo, il y en a qui vont chez vous.
Et en fait, un des trucs, c'est... et moi j'adore les rapports de stage après parce qu'ils font des petits commentaires personnels. En général, ils sont plutôt ironiques. Et donc maintenant, de plus en plus, ils prennent des photographies où ils font des petits croquis, mais ils prennent pas mal de photos des lieux comme ça. Et donc ils viennent chez moi, ils photographient mon lit. Et puis, je me rappelle notamment d'un rapport de stage avec la photo au tout début du rapport où c'était ici est le lieu où travaille le créateur. Enfin, si c'est pas de la vocation.
Dans le lit. Catherine Meurice, vous avez des enfants, Catherine, ou pas?
Non.
Vous leur conseilleriez de se lancer dans la BD où c'est quand même, ça reste un domaine quand même un peu fragile professionnellement. On en parlait tout à l'heure, la difficulté de beaucoup d'auteurs.
Oui, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Bon, on peut pas interdire à quelqu'un de dessiner. Non, faut écouter vraiment son intuition, mais il faut être sacrément armé. Ouais.
On parlait de votre album magnifique Delacroix, Jules. Colloque of Duty, Génération Greta. Dès qu'il y a un bon jeu de mots à faire sur l'actu, tu réponds présent.
Oui, mais en plus, moi j'adore parler de ces sujets comme ça autour des questions d'environnement. Je suis quelqu'un de très angoissé. Je pense que Catherine n'est pas quelqu'un d'absolument apaisé non plus par rapport au monde qui nous entoure. Et donc ces sujets, c'est d'autant d'actualité avec les feux en Australie, etc. Mais ça fait du coup maintenant quelques années qu'on est précipité vers un genre d'apocalypse. Et moi j'ai envie de le traiter, de le mettre à distance. Donc Génération Greta, c'est ça, c'est notre génération qui tout d'un coup découvre qu'elle est mortelle. Et en même temps, on n'a pas envie de faire du préchi-précha écolo non plus. Donc ce Call of Duty, c'est une espèce de petit manuel qui marche aussi bien pour les survivalistes que pour les climato-sceptiques, les véganes que pour les collapsologues. C'est une façon, un peu un point d'étape sur toutes ces questions autour de l'environnement et de l'écologie, sans que ce soit le missel de catéchisme vert non plus. Et bien évidemment, je suis un peu Khmer vert et je considère que c'est le sujet central, c'est un peu la matière noire de notre époque. Donc il faut...
Alain Opinduchef, pour donner un peu le ton de cette BD, on a deux personnages qui discutent au début sur la première page. Ok, maintenant on en est sûr, on a fabriqué Greta Thunberg à partir d'ADN de Jeanne d'Arc et de Francis Cabrel.
Oui, ça, non, mais parce que au début de l'album, il y a une citation de Greta Thunberg en fait, dans un de ses bouquins. Quand on commence à agir, l'espoir est partout, alors au lieu d'attendre l'espoir, cherchez l'action, et c'est seulement à ce moment-là que l'espoir sera là.
C'est vrai qu'il y a du Francis et il y a du Jeanne d'Arc aussi.
Et en même temps, c'est vrai que Greta Thunberg, la mettre en scène, c'est vachement rigolo parce que c'est un personnage, on dirait un peu un extraterrestre, elle est très très bizarre, un peu inquiétante, il y a plein de gens qui la détestent, mais en fait moi je peux pas m'empêcher de l'admirer d'une certaine façon. C'est un genre de on parle de prophète comme dirait Trump de l'apocalypse. En fait c'est comme Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Donc c'est quelqu'un d'admirable. C'est difficile, j'imagine, quand on a 17 ans, d'avoir la vie de Greta Thunberg. On peut plus sortir, on peut plus vivre. On est une espèce de phénomène, d'icône comme ça. Mais je trouve ça noble, généreux de la part de quelqu'un, je dirais, de se sacrifier pour ça, parce que à la fois ça en vaut la peine. C'est un peu la seule chose à faire. Et je pense qu'on est vraiment mal avisé de pas vraiment écouter ça.
Call of Duty Génération Greta, c'est disponible chez Dargo comme Delacroix. Chez Dargo aussi, vous partagez le même éditeur. Non seulement vous avez découvert Catherine Meurice, mais vous avez le même éditeur.
Non, on est la même éditrice, même chez Dargo, Gisèle Dehaene, qui est super. Donc, on voisine pas mal avec Catherine.
Il nous a rejoint en studio alors que nous devisions de ce pas léger qu'on lui connaît et qui a résonné dans tous les restaurants gastronomiques de France et de Navarre. Voici, ma chère Catherine, mon cher Jules, notre expert gastronomique Olivier Pouls, qui va tenter ce soir de surmonter son léger revers d'hier face à Élise Lucet, qu'il avait tenté de bluffer avec une enquête sur le business de l'avocat. Caramba, encore raté, comme disait le général Alcazar.
Il me faut faire un petit peu de cache-investigation à ma manière. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'avocat, un sujet qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un excellent reportage.
Eh bien, c'est déjà fait, mon cher. Envoyé spécial des avocats au Mexique, Virginie Villard. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais je vais rechercher.
Oui, bien chanté, mon Pouls. Hein. Oui. Bonjour, Olivier.
Bonjour, les amis.
Tous les jours dans Délicia. Là, tu m'as fait la voix d'Obélix. Bonjour, les amis. Winnie l'ourson. Tous les jours dans Délicia in Extremis, vous nous proposez une recette de dernière minute facile et goûteuse. Et ce soir, quoi de plus facile que d'aller chasser un petit sanglier en rentrant du boulot? C'est vrai que c'est vraiment rapide. Hein, la dope de sanglier, Olivier.
Mais quand on pense gastronomie dans la bande dessinée, évidemment, tous attablés chez nos amis les Gaulois, avec Astérix, Obélix, en train de savourer un délicieux sanglier qu'on aurait tous chassé ensemble. Sauf que j'ai fait quelques recherches et en me plongeant dans un excellent livre signé Dimitri Tillois, L'Empire romain par le menu, j'ai découvert qu'en réalité, les Gaulois ne mangeaient pratiquement pas de sanglier.
Oh non.
Eh oui. Et les Gaulois avaient déjà compris que l'élevage était une bonne manière d'avoir de la viande, donc ils élevaient eux-mêmes des animaux. Ils mangeaient des bovins, ils mangeaient du porc, ils mangeaient des ovins. Et figurez-vous qu'ils mangeaient même des chiens. Ils élevaient des chiens pour les manger, les Gaulois, ce que ne faisaient pas les Romains en revanche. Ils chassaient un petit peu, mais plutôt de la petite chasse, ils chassaient du lièvre. De temps en temps, un sanglier, mais ce n'était pas très courant de trouver du sanglier à la table des Gaulois.
Je ne les chassais pas à coups de poing, surtout. Je crois
Surtout pas, non. Alors ça n'empêche que nous les chassons beaucoup. C'est vrai que c'est en ce moment, on est en pleine période de chasse et qu'on les mange. Et si les Romains, si les Gaulois, pardon, devaient cuisiner aujourd'hui du sanglier, ce ne serait probablement pas de la manière dont le fait Obélix, c'est-à-dire un gros cuisseau juste rôti. Ils étaient experts en matière de rillettes. Les Gaulois, ils faisaient déjà des rillettes, figurez-vous. Et donc, je vais vous proposer une recette de rillettes de sanglier ou de cochon, telle que pourrait...
On n'est plus sur la daube de sanglier.
Non, j'ai décidé de changer parce que...
Il a changé son fusil d'épaule. Voilà,
je me suis dit que l'hommage à nos amis les Gaulois, c'était plutôt la rillette. Alors, en plus, c'est très simple à faire. Il vous faut à peu près un kilo de viande de sanglier.
Alors, ça se trouve où, la vente de sanglier?
Si vous avez des amis chasseurs, par exemple, ils devraient pouvoir vous
fournir
ça.
Ah oui, d'accord, c'est pas en
supermarché. Eh non, ça ne se vend pas dans les boucheries, mais
c'est une chasse. Mais sinon, on peut changer, on n'est pas obligé de prendre du sanglier.
On peut prendre du cochon tout à fait classique. Il vous faut un oignon, il faut du thym, du laurier, ce que pouvaient déjà trouver les Gaulois, ce qu'ils utilisaient. Il faut un verre de vin rouge, et les Gaulois étaient également consommateurs de vin rouge, figurez-vous. On pense qu'ils ne buvaient que de l'hydromel, mais ce n'est pas vrai. Les Romains avaient apporté la vigne, et les Gaulois étaient friands de vin rouge. Il vous faut du poivre, 3 grammes par kilo, et du sel, 15 grammes par kilo. C'est important pour bien doser vos rillettes. Et puis tout simplement, vous allez mettre ça dans un chaudron, hein, façon gauloise.
Comme panoramique.
Voilà, et vous allez laisser compoter, cuire ça pendant 4 heures, de manière à ce que la viande soit bien moelleuse, bien déliée. Il ne restera plus qu'à mixer tout ça, à laisser votre petit pot de rillettes une douzaine d'heures au frigo pour qu'il rafraîchisse. Et puis voilà, vous avez d'authentiques rillettes de sanglier telles que les mangerait Obélix.
Voilà, on attache Assurance Torix à l'arbre voilà. Et on est parti pour un banquet.
Et c'est Mathieu qui chante.
C'est
merci. Non, c'est vous qui. Vous voulez qu'on vous entende?
Non, non, ça
si
va.
Si vous voulez, on peut le mettre.
Non, non, c'est bon.
Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Le moment fatidique approche. Le moment où la France s'arrête de respirer et où on va découvrir qui a été élu chroniqueur du jour. Un moment où on serait prêt à inventer n'importe quel mytho pour ne pas être dérangé.
Ça capte pas là. J'ai pas de réseau. Ils sont trop épais les murs, hein.
A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Comme dans Ghostbusters, au départ ils étaient 4. Mais comme dans Ghostbusters, à la fin, on ne se souvient que de Bill Murray. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui, au contraire, tombera dans les oubliettes de Lina? Qui brandira la précieuse couronne tout en écrasant d'un pied vengeur la tête de son collègue sur le gazon artificiel de la terrasse du 4e en lui criant
« Brout !»
C'est l'heure du dénouement. Et d'abord, du qui tout double. Ils ont chacun 10 secondes pour vous convaincre. Mathieu Charrier, pourquoi nos invités Catherine Meurice et Jules devraient-ils voter pour vous, sachant que vous avez parlé de la bande dessinée et qu'ils s'y connaissent beaucoup mieux que vous?
Défendez la bande dessinée, votez Charrier.
Alors là, c'était le kit double le plus pourri.
Je suis Charrier.
Des kit doubles. Ouais, il faudrait un hashtag pour le sauver. Alors, Anissa Mbida, pourquoi faudrait-il voter pour vous aujourd'hui?
Parce que j'ai parlé de peinture et je pense que j'ai des artistes à côté de moi. Et j'ai montré que la France était leader et était innovante
pour nos auditeurs,
également sur ce secteur.
Pour nos spécialisés qui... dans la peinture inodore.
Voilà, peinture inodore et incolore. Et c'était quoi le dernier? Climatisante.
Climatisante, rafraîchissante.
Et c'est vrai que là, oui, vous avez raison, Mathieu Charrier, de le souligner. Nicolas Caro, pourquoi voter pour vous?
Parce que j'ai été généreux comme Dumas, j'ai parlé du livre de Catherine Meurice et Dumas pour moi, enfin Jules c'est le Dumas moderne, enfin c'est un génie donc
Alain Siroux, pourquoi voter pour vous et votre matière noire?
Parce que c'est une question je dirais philosophique depuis qu'on s'interroge sur le monde des Grecs à aujourd'hui, puis je peux revenir dans un paquet de temps, je pense qu'on n'aura pas fini pourquoi les choses sont telles qu'elles sont.
On n'aura toujours pas la réponse, non, c'est ça qui est fort. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ah bah, le SOS Fantôme a bien marché puisque c'est les 2 points pour Alain
Siroux. Les gens vous adorent, Alain Siroux. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Eh bien oui, à Anissa Mbida. Parce que oui, mais il se trouve que je vais bientôt emménager et que je pense peinture.
Mais vous n'avez pas de peinture à refaire, il est un peu parfait.
Oui, mais vous savez, quand on décroche une toile, il faut souvent refaire un peu la peinture. Et donc là, je vais voter pour la peinture française. Mais vous le savez ici, ce sont nos invités qui ont la lourde responsabilité de trancher. Catherine Meurice, Jules, vous avez chacun 3 points qui, selon vous, méritent d'être élus chroniqueur du jour.
Alors, je sais que...
Monsieur Caro vient de prononcer mon nom, donc c'est du placement de produit. Donc ça, c'est très bien, mais j'ai envie de continuer d'être fair play, comme on disait tout à l'heure. Et je voudrais voter pour la défense de la bande dessinée.
Ah, voilà,
voilà, parce que ça pourrait peut-être... Enfin, la défense des auteurs. La défense des auteurs et des autrices de bande dessinée, donc je vais voter...
Mathieu Charrier. Je savais que Catherine ne me décevrait pas. Donc, 3 points pour vous, Mathieu Charrier. Mais Jules,
alors je sais qu'on a essayé de peser la matière grise du studio pendant 2 heures, là, et on n'a toujours rien trouvé. Donc je vais aussi voter maison, hein, Mathieu Charrier.
Voilà. Oh, oui, 6 points d'un coup pour Mathieu Charrier.
La bande dessinée, c'est avant tout une grande famille.
Oui, c'est avant tout une grande mafia. Mesdames et messieurs, c'est donc Mathieu Charrier qui remporte la 99e journée de l'équipe Essoval. J-1 avant la chouille intergalactique demain avec notre invité François Berléand. On remercie nos invités du jour, Jules et Catherine Meurice, parrains de l'année de la BD en France. On rappelle vos ouvrages du moment. De la Croix pour Catherine Meurice, Colloque of Duty pour Jules. Merci également,
oui, Mathieu Charrier. Bande dessinée que je
vous avez déjà les points. Vous pouvez arrêter de cirer les pompes. L'équipe est sauvage revient demain 16h.